L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Le garçon aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. chère Christine, je suis bien entre vous deux. Sur les seins de la chemise de nuit, penche-toi contre moi. Elle le fait. Pourquoi? Pour se faire pardonner la nuit dernière. Elle l'aime bien malgré tout, Charles, malgré ses défauts. Il lui caresse les seins et d'une autre main, il caresse la cuisse de Gilles, qui lui ne dit rien. Cette main le fait bander, mais cela fait partie du jeu. Puis, les corps s'échangent, s'étreignent, jeu de main, jeu de corps où le corps reste absent. Malgré cela, Gilles, grâce à Dieu, reste intact. Gilles a pris son courage à deux mains et décide d'aller rendre visite au grand-père de Charles. Il sonne. Un domestique lui ouvre. Monsieur, j'aimerais voir monsieur François Xavier d'Anteuil. Entrez. C'est ce qu'il fait. Et le domestique ferme la porte. Apparaît derrière le domestique l'oncle Marc d'Anteuil. La curiosité l'a fait venir. Il avait déjà vu Gilles de loin. Laissez, je vais conduire ce jeune homme. Je suis l'oncle de Charles. Je m'appelle Marc d'Anteuil. Alors, on va voir le vieux grand-père. Oh monsieur, enfin, si ça vous chante. Et il monte à l'étage. Drôle de famille, n'est-ce pas? Moi, je ne veux rien avoir avec eux. Je vis sur le même toit, mais pas avec eux. J'en sais des choses. J'en sais. Ils sont riches, mais moi pauvre. Et j'aime mieux être à ma place qu'à la leur. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Vous savez, j'en sais des choses. Si vous saviez ce qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps, ils ont renvoyé des domestiques. Paraît-il qu'ils avaient volé de l'argent. Mais non. Ils les ont renvoyés. C'est par méchanceté. Ah, vous y voilà. C'est le grand-père. Oh, celui-là.
Il lui met la main sur l'épaule et regarde bien.
Un conseil. Ne revenez plus, sinon ils finiront par vous manger.
Il frappe à la porte.
Entrez.
Ouvre la porte. Marc fait entrer Gilles et ferme la porte. Le grand-père est assis dans un fauteuil. Il a de plus en plus des difficultés à respirer et à avaler. Les rayons le fatiguent. La famille n'est toujours pas au courant.
Oh, c'est toi, Gilles. Viens, approche.
Bonjour, monsieur. Gilles s'avance.
Cela ne te gêne pas que je t'appelle Gilles.
Non, monsieur. Vous n'êtes pas bien, monsieur.
Ce n'est rien. Je suis un peu là. C'est l'âge. Comment vas-tu?
Ça va bien. Les études se passent bien. Je vois souvent Charles. Nous allons à des concerts.
Oh, Charles. Il me crée beaucoup d'ennuis. Il a beaucoup changé. J'ai peur pour lui. C'est pas un mauvais garçon, mais il est tellement vulnérable.
Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Je te demande pas de le moucharder, mais dis-moi seulement s'il n'a pas fait de quelque chose de grave, d'irréparable. Non, je ne pense pas. Vois-tu, mon petit, l'adolescence est un âge difficile. C'est la période où vous êtes le plus vulnérable, alors que vous avez besoin d'aide, de soutien. Vous rejetez la famille et vous vous repliez sur vous-même. Si Charles avait des ennuis, c'est à moi qu'il faudra le dire, sans hésiter. Je l'aiderai sans le juger. Tu veux voir quelque chose?
Non, merci.
Tu vois, c'est dur d'être grand-père. On fait partie d'un autre monde, et puis l'on a à résoudre des problèmes de l'époque actuelle. Notre époque, qui a créé des fausses idoles. Sais-tu ce que cela veut dire?
Non, pas, monsieur.
En réalité, Gilles le sait, mais il veut faire plaisir au grand-père. Écoute-moi bien. De tout temps, l'homme a eu besoin de s'identifier, d'avoir pour modèle d'autres hommes, choisis dans la vie courante ou les légendes. Avant, ces hommes auxquels on s'identifiait étaient des personnages hors du commun, tels que des rois, des guerriers, des dieux. Les grands savants ont quelquefois des personnes de légende, tels que ceux de mer ou des chevaliers de la table ronde. Ces êtres étaient des gens qui avaient une vie exceptionnelle et qui possédaient de grandes qualités. Maintenant, l'homme a toujours besoin de s'identifier à d'autres hommes. Mais comme l'époque où nous vivons ne forme plus des êtres hors du commun, ni des personnages de légende, alors l'homme se rattache à de fausses idoles. Tel un homme qui se noie, s'agrippe à la première chose venue, même si c'est une branche pourrie. Ces fausses idoles sont des chanteurs, des sportifs, des comédiens, des industriels. Toutes ces idoles de notre époque sont éphémères. Elles ne durent que l'espace d'une saison. Elles sont creuses, impuissantes, médiocre. Elles ne valent rien, ne nous apportent rien. Notre époque est la première à ne pas pouvoir fournir à ses contemporains la chose la plus indispensable qui soit pour le la survie de la société, au développement de l'homme. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de s'identifier et de l'entrer? Je crois que c'est une chose innée. Dans sa plus tendre enfance, l'homme s'identifie à ses parents. Et puis, un jour, il s'aperçoit qu'il est à l'entrée, que les êtres qu'il est à l'entrée étaient des gens comme tout le monde. Alors, il cherche ailleurs ce qu'il ne trouve pas chez lui. Et ce qui lui permet de s'ouvrir au monde et de s'en comparer aux autres. En voyant ses défauts et ses... qualités, il peut de cette façon s'améliorer et mieux comprendre les autres. Nous avons besoin, pour nous développer, de prendre racine, de s'identifier, d'avoir une base, un modèle qui soit dur, grand, fort. Si nous ne trouvons que quelque chose qui ne soit pas suffisamment fort, et comme nous devons nous baser sur quelque chose, nous le faisons
sur ce que la société nous offre. La jeunesse d'aujourd'hui est malade du manque de héros. Dieu, elle ne peut trouver de modèle de base pour se développer. Elle se développe comme elle peut, sans âme, ni foi, ni loi, d'une manière anarchique, suivant la circonstance. Ceci forme une jeunesse, un peuple, une société à la dérive, comme un bateau dont l'équipage n'aurait pas de capitaine. Une société qui vit sans idéal, sans modèle. Pour sa jeunesse, est une société qui meurt du manque de création, de combativité. Car pour prier, il faut une pause, un besoin. Pour combattre, il faut un but, un modèle auquel on doit aboutir. La civilisation occidentale est à l'agonie, faute d'idole pour sa jeunesse. Notre société forme des êtres à l'emporte-pièce, sans âme ni idéal. Dès leur plus jeune âge, ils sont dirigés, formés, édictés pour un certain... pour une certaine personnalité. Un certain travail. Au lieu de former la jeunesse pour devenir des hommes, on les forme à un certain type de vie. Mais ceci ne peut pas durer longtemps, car l'être humain n'est pas une machine qui ressemble à d'autres machines. Il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent et qui ont le même besoin pour vivre, en plus des besoins vitaux. La société humaine ne peut vivre comme des sociétés de robots. L'homme se révoltera contre ces systèmes, car il est inné pour lui d'avoir une personnalité propre et indispensable. Son développement. L'homme doit vivre en société tout en étant indépendant le plus largement possible de cette société. Ceci fait partie d'une des particularités de l'espèce humaine. Voilà, mon petit.
Le grand-père a fini de parler, épuisé, mais heureux d'avoir donné ses idées. Gilles l'a écouté avec attentissement. Il a senti que ça lui faisait plaisir. Alors c'est pour ça que les jeunes se révoltent constamment dans cette société et qu'ils font des choses suicidaires.
Oui, c'est pour cela. Et j'ai peur pour Charles, pas pour toi, car toi, tu es un être pur. Une espèce d'ange.
Oh monsieur,
ne te fâche pas, c'est un compliment
que je ne mérite pas.
Ça, je me sens là, pardonne-moi, mais il faut que je me repose. Reviens me voir et garde Charles.
Je vous le promets monsieur.
La mère de Gilles est absente, alors Charles passe la soirée chez lui dans sa chambre. Ils sont assis à une table à réviser. Après une heure de travail, Gilles lui dit
« Charles, je trouve que la vie que tu mènes en ce moment ne te mène à rien. C'est pas bon pour toi, tu perds ta vie. »
Charles ose les épaules et lui dit « C'est avant que je perdais ma vie.
J'ai perdu ma jeunesse en étant trop sage. Maintenant, je veux me rattraper. Regarde, les adultes font la morale aux jeunes. Mais si tu vois comme ils vivent, regarde mon père. C'est la preuve que le plaisir est le but de tout. Gilles secoue la tête et lui dit « Non, c'est dans la sanctification que se trouve la joie. La preuve, regarde, une personne malade, lorsqu'elle se sent guérie, elle a l'impression de revivre. Ou bien, une personne qui vit dans la dégradation est malade de l'âme. Et comme cette maladie se guérit, comme une maladie du corps, une fois que l'on est guéri, on se sent revivre, sanctifié. » Charles sourit et lui dit « Tu as vu grand-père ? Tu deviens comme lui, vieux ?» Gilles sourit. « Non, je ne crois pas, c'est l'éternelle vérité. » Charles lui dit « Des mots tout ça, des mots. » L'après-midi, Charles se trouve vers les urinoirs. Il est seul avec un jeune à cheveux longs et jean. « Je t'assure qu'elle est bonne. Montre. » Charles sort de sa poche une enveloppe. Le jeune en prend un peu dans les mains. Tout à coup, le jeune rougit et se sauve. Charles se retourne. C'est un pion. Il est 25 ans, petit, maigre, les cheveux et une petite moustache chantant. Il est habillé d'un costume gris. Le pion prend la main de Charles où il y a l'enveloppe. Je ne dirai rien si tu es gentil avec moi. Charles panique, furieux. Il est plus grand que ce mec qui est rachitique. D'un geste brusque, il se dégage et il donne un coup de poing. Tombe à terre. Charles se sauve en courant. Il est pris de panique et se promet d'être plus sage. La soirée, calmé, il va chez Gilles pour faire ses devoirs. Gilles le reçoit et le mène dans sa chambre. Il s'assoit et dit à Gilles: je crois que je vais essayer d'être plus sage. Gilles lui sourit et ils font leurs devoirs ensemble. Charles a beaucoup hésité avant de retourner au lycée le lendemain matin. Et sur le trajet, il s'est dit qu'il fallait qu'il y aille à cause du bac. Et que si le plomb lui faisait des histoires, il le dénoncerait pour ce qu'il lui a proposé. Il retrouve le pion avec un œil au bord noir. Il s'avance vers lui et lui dit « Je t'attendrai au tournant, mon petit. » Et il s'éloigne de Charles.
Charles se dit que c'est un pauvre type. Je n'ai rien à craindre. Cela lui donne plus d'assurance et lui fait oublier en partie ses bonnes résolutions. Charles seul chez Gilles. Il lui ouvre.
Il a un peignoir de bain. Salut, entre.
Gilles ferme la porte. Ils vont dans la chambre. J'ai pris ma douche, si tu permets, je vais m'habiller. Charles voit sur une chaise les vêtements de Gilles avec au-dessus une petite cycle marine aux rayures rouges. Ceci le trouble. Gilles enlève son peignoir. Il est nu. Charles est troublé et a de la peine à regarder ce corps presque enfant qui est toujours désirable. Si tu veux, je peux sortir. Gilles hausse ses épaules. Non, reste. Il se retourne, se penche légèrement pour mettre son slip. Il montre ses fesses petites et blanches. Charles en rougit. Il faut que Gilles se retourne en slip, cela va mieux. Et il continue à s'habiller. Malgré lui, lui a servi d'érotisme masturbatoire durant de nombreuses semaines. Chez Gilles et en se dirigeant vers chez lui, il rencontre Sandrine qui s'arrête pour lui dire bonjour. Salut Charlie. Salut. Je te vois plus beaucoup. Je travaille mes examens. Ah, c'est ça. Tu viens chez moi? Il hésite. Tu ne me regretteras pas. Bon, d'accord. C'est loin? Non, à 5 minutes. Et ils y vont. Sandrine habite dans un petit immeuble minable du côté de Pigalle. C'est au deuxième étage, une pièce, une chambre de bonne si l'on veut, avec une douche. Un lit, à deux places en fer, une table en bois, deux chaises, un réchaud sur une autre petite table et un réfrigérateur et une armoire. Les meubles sont en bois, sales et n'ont pas de style. Elle ouvre la porte. Claire,
entre, ne crains rien.
Elle ferme la porte. Quitte son blouson et le met sur une chaise. Porte un pull rouge qui moule bien les seins. Et une jupe noire, plutôt mini. Elle s'approche de Charles. Souriant, se pense à son cou.
Que tu es sous. Viens.
Tout en le maintenant au cou, elle le mène vers le lit. Et tombe sur le lit, et lui sur elle.
J'ai envie. Mets-le-moi.
Elle l'embrasse sur les lèvres. Puis Charles lui enlève son pull.
Nu de sang,
il lui retire sa jupe.
Aussi nu,
il se lève pour se déshabiller. Il se met au milieu du lit, les jambes écartées.
Mets-le-moi, mets-le-moi.
Plus tard, Charles dort à côté de Sandrine. Ils sont nus tous deux. Ils sortent du lit en évitant de faire du bruit. Le téléphone qui est au mur fait un numéro.
Allô? C'est moi, Sandrine. Il est chez moi. Oui.
Puis, elle va s'habiller. Se réveille, ou alors à sa montre.
Ça fait tard, je dois partir.
Il se lève et s'habille. Bottes de Sandrine, elle tombe sur Quentin.
Tiens, Charles, salut.
Salut. Qu'est-ce que tu deviens?
Ça va?
Je ne te vois plus.
J'ai mes examens préparés.
Tu sais que tu as une ardoise chez moi?
Oui. Tu arrives quand?
C'est une botte de Sandrine, elle tombe sur Quentin.
Tiens, Charles, salut.
Salut. Qu'est-ce que tu deviens?
Ça va? Je ne te vois plus.
J'ai mes examens préparés.
Tu sais que tu as une ardoise chez moi?
Oui. Tu arrives quand?
Je ne sais pas pour le moment.
Mais là, ça ne va plus, hein? Ça ne va plus aller, mon vieux.
Je ne peux pas.
Moi, je ne peux plus attendre.
Oui, mais...
Quentin réfléchit un moment. Si tu veux, je peux effacer tes dettes.
Comment?
Fais un petit travail pour moi.
Oui, je veux bien.
Bon, alors, c'est un peu spécial, mais sans danger. Le guet devant l'entrée de la villa à l'intérieur d'une camionnette. Il doit captionner s'il y a quelque chose de suspect. Trois mecs sont à l'intérieur de la villa et font le tri. père est assis à son bureau et souffre beaucoup de la poitrine. Dans le déjeuner, quelque chose n'a pas pu passer et semble rester coincé dans l'œsophage. Malgré sa douleur, il s'inquiète pour Charles. Quelque chose lui dit qu'il est en danger. Et la mère ne font pas attention au changement de leur fils. Ils sont trop occupés par leurs soucis. La mère surveille le père et le père vit que pour ses maîtresses. Après avoir payé ses dettes, Charles retourne chez Quentin et en refait. Comme il a besoin de plus en plus d'argent, Quentin le fait vendeur. Gilles va voir le grand-père dans son bureau. Reçoit Gilles assis dans un fauteuil et le fait asseoir sur une chaise à côté de lui. Gilles le trouve changé, vieilli, et a l'impression que la mort commence son travail, ce qui l'émeut beaucoup.
De te recevoir ainsi, mais j'ai pris froid, quelque chose qui ne passe pas dans la gorge.
Vous êtes bien malade? Vous souffrez?
Un peu, pas trop, mais cela passera. Comment vas-tu?
Bien, en ce moment, ma grand-mère est absente et est chez une de ses soeurs malades.
Tu vois Charles?
Oui, presque tous les jours, nous nous voyons et nous révisons ensemble.
Que fait-il?
Il m'a promis d'être sage.
C'est bien, mais quelque chose me dit qu'il va mal. Il rentre tard, ne parle pas, maigrit, a les yeux rouges ou luisants, fume beaucoup, et dans sa chambre, il y a des tas de canettes de bière. Je trouve qu'il se dégrade beaucoup. Qu'en penses-tu?
Charles se sent gêné, car il est vrai qu'il n'avait aucune amélioration chez Charles.
Les bonnes habitudes se prennent pas d'un coup, monsieur.
Tu as raison. Mais heureusement, tu t'aimes bien, je crois.
Oui, moi aussi je l'aime bien.
Oh, l'amitié, c'est un beau sentiment. Mais dès qu'un homme fréquente une femme, c'est fini. Les femmes sont égoïstes. Elles veulent être le centre du monde et ne veulent partager l'affection de leur époux avec personne. Alors petit à petit, elles font le vide autour d'eux. Et un matin, l'homme se trouve sans amis, vrais amis. Bien sûr, plus tard, il y a les camarades de travail et les nouveaux amis adultes. Mais ce n'est pas la même chose. Ces amis-là sont des amis du couple, choisis par eux. Il faut bien profiter du temps des amitiés, car jamais une autre personne que ton ami ne te connaît n'est plus proche de toi. Même ta famille, c'est moins de choses sur toi que ton ami. Et la femme que tu connaîtras physiquement, t'en sera moins sur elle que sur ton ami. La vie est comme cela. Plus on avance en âge, et plus on est isolé, même au milieu de sa famille.
Le grand-père blanchit,
fait la grimace, elle a de la peine à respirer.
Il bave.
Mais pas bien, monsieur.
C'est rien. Seulement un morceau de viande qui a des difficultés à passer.
Vous voulez de l'aide?
Surtout pas, surtout pas. Cela n'est pas bien grave. Ne dis rien à personne. Et surtout pas à Charles. Promets-le moi.
Je vous le promets.
C'est bien. Maintenant, il faut me laisser me reposer, mon petit. Me laisser me reposer.
Grand-père sait qu'il a un mauvais moment à passer, il le pressent. Une heure, deux heures de grande douleur. Ensuite, ce sera le repas du soir. Il dira qu'il voudra simplement qu'on lui serve un potage dans sa chambre. Il essaye d'avaler, mais crache.
Beaucoup.
Il a refusé à son médecin de se faire hospitaliser.
J'aime mieux mourir chez moi plutôt que dans un hôpital. De toute façon, je sais que je suis perdu. Comme tout le monde d'ailleurs. Nous sommes tous des condamnés à mort.
Chance. Il a trouvé dans son école trois mecs qui lui prend régulièrement de l'herbe, ce qui fait qu'il s'est fait un petit pécule. Alors, comme il sait que Gilles se nourrit surtout de conserve, il invite au restaurant. Gilles se sent gêné. Oh, écoute, si entre amis on peut pas se faire de cadeaux. Allez, viens, je connais un endroit sympa, pas trop cher, mais très bien. C'est un petit restaurant où l'on mange la cuisine bourguignonne. Après avoir un peu mangé et bu, ils se sentent bien. Charles lui dit : c'est dommage que tu ne sois pas avec moi. Tu perds beaucoup, tu sais, on s'amuse bien. Tes copains ne sont pas bien. Tu ne les connais pas et puis ne fais pas le moral. Ils sont tous aussi bien que n'importe qui. Si tu crois que les autres, les moralistes, sont mieux, mais chacun a sa drogue. L'agent aussi est une drogue. Viens avec moi et tu verras. Bon, je veux bien pour pas avoir l'air rétro, mais enfin, j'accepte d'y aller à ta soirée et ce sera seulement un spectateur. Non, ça ne vaut pas le coup. Tu feras tout ce que je fais, comme tout le monde. Bon, et puis, comme cela, ça me permettra de te surveiller, DJ. Charles sourit. Tu es mon ange gardien. Un ange gardien que tu veux pervertir. Si peu. Charles a proposé à Gilles de l'accompagner parce qu'il a peur que Gilles s'éloigne de lui.
Ah. lendemain soir, Charles avec Gilles sonne chez Quentin. C'est Quentin qui lui ouvre.
Salut, qui est-ce?
C'est mes copains, il s'appelle Gilles.
Salut Gilles.
Entre.
Ils entrent.
Toujours la vingtaine de mecs assis à terre. Charles et Gilles se mettent au milieu de la pièce.
Salut,
dit Charles. Et il prend Gilles à l'épaule et vont s'asseoir dans un coin.
Qu'est-ce qu'ils font?
Demande Gilles. Rien. Ils fument de la drogue et boivent de la bière. Sandrine s'approche d'eux.
Salut Charlie.
Salut.
Qui est-ce?
Et Gilles, mon copain.
Salut Gilles.
Et elle s'assoit à côté de Charles.
Je suis toute gelée ce soir. Touche mes mains.
Il les lui prend.
Je crois que je vais fumer. Tu en veux?
Oui.
Et ton copain?
Lui aussi.
Je vais en chercher.
Elle se lève.
Gilles demande. C'est ta copine?
Si l'on veut, il ne te gêne pas.
Gilles hausse ses épaules. Et Christine?
C'est fini, elle était chiante. Elle voulait que l'on fasse l'amour comme des vieux.
Sandrine revient.
Elle donne à chacun leur part et s'assoit. Charles, avec un briquet, lui allume son herbe et celle de Gilles.
Gilles tousse un peu. C'est pas formidable. Je ne sais rien du tout.
Attends un peu.
Que je n'aime pas fumer.
Sandrine lui dit. Tu veux te piquer?
Merci.
Sandrine se met contre Charles. Charles met sa main sur son pull et lui caresse ses seins. Sortent de chez Quentin, Charles, Sandrine et Gilles. La drogue, la bière les ont enivrés. Ils marchent sur le trottoir, ils titubent un peu, ils se sentent bien.
Du matin, il traîne dans les rues. Charles fait le tripitre, tape sur les voitures avec ses poings.
Gilles a peur du scandale. Il lui crie : arrête ! Tu risques de mettre une alarme en route.
Fais rien, ça réveillera ces bandes de cons qui dorment.
Sandrine danse sur le trottoir.
Dans une rue déserte, Charles voit des poubelles sur le trottoir. Il s'amuse à les pousser avec ses pieds pour les mettre au milieu de la chaussée.
bout d'un moment, fatiguée, Sandrine dit « Je connais une église, vous pourrez dormir un peu ?»«
D'accord, » dit Charles.
« Ah non !» dit Gilles. Charles le prend au cou. « Ne sois pas bête, une église, c'est une bâtisse en pierre comme toutes les autres. »
« Non, pas tout à fait.
Idiot, si Dieu existe, il se trouve de partout. »
Nous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.